Seigneur, toute notre vie t'appartient, Seigneur. Nous sommes à toi. Chaque personne ici t'appartient. En fait, le monde entier t'appartient et tout ce qu'il contient t'appartient. Et nous sommes disposés, Seigneur, à marcher selon ta volonté en toutes choses et à accomplir ta volonté en toutes choses. Manifeste ta grâce dans nos cœurs. Manifeste ta grâce dans nos vies. Que ce que Jésus est venu accomplir dans nos vies soit manifesté puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin, ce soir? On acclame Jésus. Est-ce que c'est tout le bruit que tu peux faire pour Jésus? Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom. On va s'asseoir. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait hier soir. Amen. Lors du programme Jésus sauve et guérit, par la grâce de Dieu, on a été visité. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des guérisons en live, en direct. Amen. Vous savez, les dons de Dieu et les grâces de Dieu, elles vont en grandissant. Amen. Il faut qu'on soit toujours encouragé à persévérer. Et je suis sûr que par sa grâce, nous allons explorer les cimes de sa bénédiction, c'est-à-dire le sommet. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Je vais parler sur le thème « Vivre par la foi ». Dis à ton voisin, tu dois vivre par la foi. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 38. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 38. La Bible dit « Et mon juste vivra par la foi ». Amen. « S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais mon juste vivra par la foi. » Amen. La seule manière de vivre pour un chrétien, c'est de vivre par la foi. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne par la foi. Tout ce qu'on fait dans le royaume de Dieu, nous le faisons par la foi. Tout fonctionne sur le principe de la foi. Sans la foi, il est difficile de faire marcher ses affaires, sa famille, ses finances, sa santé, son ministère. Sans la foi, tu ne peux même pas garder le diable sous tes pieds, là où il doit être. Parce qu'il va créer un mouvement qui va te faire que tu vas enlever ton pied sur sa tête et tu vas le laisser agir. J'ai remarqué que même dans tous les aspects de la vie, on a besoin de la foi. Là, tout à l'heure, en venant, si je n'avais pas la foi, j'allais faire demi-tour. J'arrive à l'entrée de la A1, je vois que la route est complètement bouchée. Les voitures ne bougent pas. Et je me dis, waouh. Généralement, quand ça fait comme ça, c'est que j'en ai pour 1h30, 2h avant de rentrer dans Paris. Donc, quelque chose me dit, c'est même pas la peine. Appelle, demande à quelqu'un de prêcher, fais demi-tour, va à la maison. Et je me suis rappelé que cette même chose-là m'est arrivée il y a quelques semaines quand je voyageais pour aller en Guadeloupe. Je ne sais pas pourquoi les vols ne partent que de Orly. Alors moi, j'habite derrière Charles de Gaulle. Hein, je suis loin de Charles, je suis même à 25 minutes de Charles de Gaulle. Donc, vous imaginez Orly. Donc, quand tu arrives à Charles de Gaulle, tu n'as rien fait d'abord. Et quand j'arrivais à Charles de Gaulle, je voyais déjà que toute la voie était bourrée, chargée, et j'avais une heure pour être à Orly. En temps normal, j'ai encore une voix qui me dit « Non, fais demi-tour, c'est même pas la peine, tu vas rater ton vol, tu vas conduire pour rien. » Mais je dis « Non, je ne vais pas faire demi-tour avec la foi. » Parce que si tu t'arrêtes sur ce que tu vois, tu fais demi-tour. Mais si tu vas sur la base de ce que tu crois. J'ai dit non, je ne peux pas rater ce vol-là. Je me voyais déjà en Guadeloupe en train de prêcher l'évangile. Amen. comme je me voyais déjà ici en train de vous parler de la part de Dieu. Et malgré l'image que j'ai vue qui était vraiment un embouteillage, mais serré, j'ai dit non, je vais quand même rester là et je vais continuer. Et le Seigneur me dit, parle en langue seulement et puis avance. Donc je roule. Je vois que plus j'avance, plus la situation est pire. C'est-à-dire les voitures même ne bougent même pas. On est là, on est comme immobilisé. 5 minutes pour faire 1 mètre, terrible. J'ai dit, mais ça c'est quoi cette affaire? Et un moment, alors qu'on avance, on avance, la voie se dégage. Et chose qui ne se passe pratiquement jamais à Paris. Depuis l'entrée de la A1 jusqu'à Orly, la voie était libre jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport pour prendre l'avion. Et j'avais même 20 minutes d'avance. Amen. Si on veut s'arrêter à ce qu'on voit dans un premier temps, on risque de baisser les bras très souvent dans la vie. Oh my God. On risque d'abandonner, on risque de laisser tomber, on risque de reculer. Tu vois? Ça prend véritablement de la foi pour, dans certaines situations, ne pas être choqué et continuer d'aimer même ceux qui te critiquent et qui, des fois, t'utilisent. Tu sens que la personne... Mais c'est par la foi que tu te maintiens, tu maintiens le cap par rapport à ce que Dieu t'a dit qu'il veut faire et qu'il veut accomplir dans ta vie. C'est par la foi. C'est par la foi que tu gardes la tête haute et que tu ne laisses pas les paroles négatives, les paroles mauvaises, les critiques négatives te pousser à réagir négativement. C'est par la foi que malgré tout ce que tu entends et tout ce qu'on te dit et tout ce qui te revient et ce genre de choses, tu continues de faire bien et d'agir bien parce que tu crois que ce que tu poursuis va se réaliser et va s'accomplir. Amen. Dans ce monde présent, nous sommes entourés de tant de méchants et de tant de méchanceté qu'on ne peut pas s'en sortir sans ce qu'on appelle la foi agissante par l'amour. Amen. Dis à ton voisin la foi agissante par l'amour. Galates chapitre 5 verset 6 nous dit, Galates 5:6 nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Amen. Galates 5:6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi agissante, cette version dit par la charité, d'autres versions disent par l'amour, la charité étant l'amour. Amen. En Jésus-Christ, le fait que tu sois circoncis ou pas, le fait que tu aies été baptisé ou pas, le fait que quand tu es plongé dans l'eau ou pas, le fait que tu ailles à l'église ou pas, toutes ces choses-là n'ont pas plus de valeur que la chose qui a le plus de valeur, c'est la foi qui agit par l'amour. Amen. La foi qui agit par l'amour. C'est vrai qu'on nous a dit que oui, l'amour est la plus grande des choses. Amen. Et certains ont dit oui, moi je préfère avoir l'amour que d'avoir la foi. Mais là tu te trompes. La Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir la foi. La Bible n'a pas dit mon juste vivra par l'amour. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais quel genre de foi? Pas la foi qui veut démontrer qu'elle est grande. Pas la foi arrogante. Pas la foi méchante. Pas la foi qui cherche à prouver, mais la foi qui agit sur la base de l'amour. Mais la foi, elle est importante quand même. Pourquoi on dit que de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour qui est la plus grande? C'est parce que lorsqu'on sera dans le ciel, on n'aura plus besoin de foi. Mais tant qu'on vit sur la terre, tant qu'on vit dans le monde, ce qui va nous permettre d'avoir la domination dans le monde et de recevoir ce que Dieu a mis à part pour nous, c'est la foi. Que la foi, rien que la foi. Amen. Donc tu as intérêt et tu as besoin de savoir comment la foi marche, comment la foi fonctionne. Et tu as besoin de commencer à grandir dans la foi. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit quelque chose de très important. Éphésiens 2:8 nous dit, car C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc là, on parle de notre salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais comment? Par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que même la grâce, il faut pouvoir la recevoir. La Bible dit, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Oh oui, c'est le don de Dieu. De toute façon, si je suis sauvé, c'est Dieu qui a... Oui, c'est le don de Dieu. Mais je vous dis quelque chose qui est très important aussi. Tout don de Dieu se reçoit par la foi. Tout don de Dieu se reçoit par la foi. Même quand Dieu te fait un don, si tu n'y mets pas la foi, ce don-là ne va pas se manifester. Le diable va te l'arracher, le diable va te le voler, le diable va t'aveugler, le diable va te faire croire que tu n'as rien reçu. Tu sors même du trône de grâce, tu sors même de devant Dieu. Dieu te dit, bon, tu as le don, par exemple, pour guérir les malades. Dès que tu sors, le diable va dire, toi, comme ça, là, tu peux avoir quel don de guérison des malades. Faux type comme ça là, tu dis, il va commencer même à te montrer même ta vie passée, ce genre de choses, t'expliquer comment toi tu ne peux pas. Il va te dire que c'est une illusion. Est-ce que même tu as vu Dieu? Dieu t'a signé un document pour te dire que tu as le don. Mais si tu n'as pas la foi, peut-être même la première personne pour qui tu vas prier, la guérison ne va pas se manifester. La deuxième personne, la guérison ne va pas se manifester. Certaines personnes à ce stade-là vont dire, ah, je n'ai rien reçu, je n'ai pas le don. Qui t'a dit ça? Amen. C'est pas parce qu'il y a de la résistance au début que tu dois laisser tomber. Oh my God. Mais sinon, tu vas passer ta vie à laisser tomber des choses que Dieu t'a données. Il y a des gens qui disent, oui, si Dieu t'a donné, tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Qui t'a dit ça? Si Dieu t'a donné, pourquoi tu ne vas pas avoir besoin de te battre pour ça? Parce qu'il y a le diable qui est là, qui ne veut pas que tu aies ce que Dieu t'a donné. Donc le combat commence automatiquement. Dès le moment où Dieu veut te donner, le combat commence. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est vrai. C'est une grâce. Qu'est-ce qu'on a fait pour être sauvés? Rien. Jésus a payé le prix de notre salut. Lorsqu'il est parti à la croix, il y a eu substitution. Il a fait pour nous. Il a fait à notre place. Il a payé. Nous, on n'était même pas encore nés que Jésus déjà payait le prix de notre salut. Donc c'est ça la grâce. La grâce, elle est manifestée. Mais comment est-ce que cette grâce-là qui est manifestée pour nous, comment est-ce qu'on peut en profiter pour pouvoir entrer dans ce salut? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Pas la foi. Ce qui ne vient pas de nous, ce n'est pas la foi. La foi vient de nous. Ce qui ne vient pas de nous, c'est le salut qui nous est offert. Ce n'est pas ton grand-père qui a payé le prix de ton salut. Au contraire, avec l'idolâtrie et les fleuves qu'il a adorés, et les sacrifices qu'il a faits, il a rendu même les choses compliquées pour toi. Mais c'est Jésus qui a payé le prix de ton salut. Cela ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Dieu t'a donné le salut. Mais pour que tu puisses saisir le salut, oh my God, you need faith. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de saisir ça par la foi. Sinon, chaque matin, tu vas douter de ton salut. Tu vas te poser la question de ça, mais est-ce que moi-même je suis sauvé? Nous-mêmes, Dieu, le diable nous attaque des fois avec ce genre de choses-là. Mais toi là-même, là. Tu crois que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça? Tu vas voir. Mais si tu n'as pas la foi, il vient avec de ses attaques. Et le problème, c'est que les gens qui ont une oreille pour ce genre de choses-là, ils n'ont pas une vie constante et stable. Ils ne sont pas en train de travailler de manière stable. Ils ne sont pas en train de bâtir les choses de manière stable. Parce qu'un matin, oh, je suis sauvé, j'ai la gloire de Dieu, Dieu avec moi, j'ai la force contre le diable. Le lendemain, oh, vraiment. Est-ce que même j'ai bien fait de devenir chrétien? Peut-être j'aurais dû rester là où j'étais avant. Vraiment, je ne comprends pas. Après, le lendemain, ouh, vraiment, c'est merveilleux. Quoi. Mais ces gens-là, ils fonctionnent à quoi? Ils fonctionnent avec leurs yeux. Le jour où ils viennent à l'église et qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont tombés et qu'il y a eu un mouvement, oh, vraiment, non, ça, c'est, voilà, je suis à la bonne place. Non, là, je suis. Mais le jour où ils viennent qu'il n'y a aucune manifestation, Est-ce que même Dieu-même est encore avec nous?
Quoi?
Tu sais, tes yeux sont les alliés du diable. Tous tes sens, le diable utilise tes sens pour te tromper. Il utilise tes sens pour prendre l'avantage sur toi. Dès le moment où tu fais appel à un sens, où tu fais appel à tes oreilles physiques, où tu fais appel à tes yeux physiques, où tu fais appel à l'odorat et au toucher, le diable, il saisit l'occasion en même temps pour pouvoir avoir accès à toi. Pourquoi? Parce que si ton esprit est régénéré, le diable ne peut pas affecter ton esprit. Mais il peut passer par ton corps. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la chair. L'homme qui veut avoir une grande foi, c'est un homme spirituel. Un homme qui bâtit l'homme intérieur, qui bâtit l'homme spirituel. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il dit, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, crois dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il n'a pas dit qu'il croit dans sa tête, il dit qu'il croit dans son cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Donc si ton esprit n'est pas capable de saisir quelque chose et de maintenir cette chose-là, que tu fais confiance à ta tête, Il n'y a rien qui danse et qui joue plus que ta tête. Ton cerveau, là, il est programmé pour douter. Jusqu'à ce que tu le reprogrammes. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés. Amen. Soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Ce même mot métamorphosé est utilisé lorsqu'on parle de la chenille qui devient un papillon. La chenille qui devient un papillon. Soyez métamorphosé par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, comme la chenille, tu vas te refermer sur toi et tu vas commencer à faire un travail. Tu vas lire la parole, tu vas méditer la parole, tu vas jeûner, tu vas prier en langue, tu vas te développer spirituellement et tu vas former autour de toi un cocon. Dans ce cocon-là, des choses qui étaient déjà en toi, mais qui ne se manifestaient pas, vont commencer à sortir. Les ailes du papillon vont sortir. La trompe va sortir. Avant, tu marchais dans la boue, dans la fiente et dans les déjections des vaches et des bœufs et ce genre de choses-là. Mais là, maintenant, Tu vas devenir un papillon. Tu vas voler au-dessus de toutes ces choses-là et tu vas te nourrir des nectars de fleurs. Oh my God. Il y a une transformation. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le problème, c'est que nous, on veut fonctionner avec Dieu, mais sans que cette intelligence-là soit transformée. Sans que l'homme intérieur ne soit vraiment développé et ne grandisse. Parce que il doit y avoir une collaboration à un certain moment entre tes pensées et ton cœur. C'est à ce moment-là que tu deviens dangereux. Mais tu génères de la foi. Ta foi grandit, mais là, ça passe pas. Oh, est-ce que Dieu même peut faire? Est-ce que Dieu, vraiment, cette affaire-là, moi, je ne comprends plus rien maintenant. Avant même, ça allait mieux. Maintenant, depuis que je suis là, il y a des problèmes seulement. Il y a des problèmes partout. Mais est-ce que Dieu même, il est avec nous? Mais est-ce que Dieu... Mais les Israéliens, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Tout le temps, ils fatiguaient Moïse. Des gens qui ont vu, et puis il y a des gens qui disent, oui, moi, il y a une certaine sorte de miracle là. Si je vois ça, je vais croire. C'est faux. Même si tu vois ça, tu ne vas pas croire. Les Israéliens, Dieu a ouvert la mer rouge pour eux. Ils ont traversé à sec. Quand ils sont allés de l'autre côté, les Égyptiens qui les suivaient, Moïse a dit, regardez bien ces Égyptiens qui vous poursuivent là, vous ne les verrez plus. Quand les Égyptiens sont rentrés dans l'eau, la mer s'est fermée, les Égyptiens ont disparu. Deux jours après, ils disent à Moïse, mais là on est dans le désert maintenant, on commence à avoir faim, c'est comment? Ton Dieu là, il veut nous tuer? On a faim. On se rappelle les concombres, les salades, Ils ont commencé à lui citer les choses qu'ils mangeaient. Moïse dit, bon, demain vous allez avoir du pain. Du pain, hein? Dans le désert ici, il dit oui. Le lendemain, quand le pain est descendu, ils ont vu la manne. Oh, alléluia, hé, vraiment notre Dieu. Après ils disent, bon, et la viande? Oh mon Dieu. Dieu les emmène devant Canaan en quelques jours. Il dit, regardez, prenez Canaan. Il y a un groupe qui a dit, mais Canaan là, il y a des géants là-bas. Ouh, des quoi? Des géants.
Jésus il a dit, mais n'ayez pas peur des géants. C'est quoi les géants? Ils n'ont même plus de force. Je les vois comme du chouine. Il a dit, la version en anglais dit, on va les manger. We will chew them. On va les manger. Mais il y a un autre qui dit, puisque lui, il se bat sur ses yeux. Il dit, mais là-bas, là, les géants qu'on a vus là, ils font partie de la race des géants, fils de géants. Quand on les a vus, on s'est vus comme des sauterelles. Tu vois comment tes yeux vont te faire te voir en face des situations et des problèmes. Tu te vois comme une sauterelle. On s'est vu comme une sauterelle. Et les gens ont commencé à pleurer. Le peuple a commencé à pleurer. Oh, on est foutu. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas laissés là-bas? Si c'était pour mourir, on aurait dû mourir en même temps en Égypte. Pourquoi il nous amène dans le désert pour nous tuer? Quoi? Tu es capable de dire que Dieu veut te tuer? Oh. Josué dit, mais arrêtez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi votre cœur est méchant comme ça? Comment pouvez-vous penser que Dieu va vous sortir de l'Égypte? Vous arrachez entre les mains de Pharaon, vous sortez de l'esclavage, vous faites traverser la mer Rouge pour vous emmener dans le désert pour vous tuer. Mais s'il voulait vous tuer vraiment, il vous aurait tué depuis. Dieu a dit, mais vous êtes un peuple méchant. Il dit, aucun d'entre vous n'entrera à Canaan, excepté Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer à Canaan sans la foi. Tu penses que tu peux être sauvé sans la foi? C'est pas possible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Sans la foi, on ne peut pas entrer dans le royaume. C'est un don de Dieu, mais il faut la foi pour le recevoir. Amen. Sans la foi, aucun don de Dieu ne peut se manifester. Même si tu reçois l'onction pour prospérer, la force pour prospérer, la grâce pour prospérer. Parce qu'il y a une onction pour prospérer. Il y a une onction pour devenir riche. Le Seigneur l'a dit dans Deutéronome chapitre 10, je crois, 18. Il dit, quand tu vas manger et que tu seras rassasié, t'habiller et que tu seras vêtu, quand tu auras des richesses à ne plus savoir quoi en faire, souviens-toi de ton Dieu qui t'a donné la force pour les acquérir. Quand tu vois force, onction, puissance, c'est la même chose. Dieu est capable de donner à quelqu'un la puissance pour acquérir les richesses. Mais si tu as cette puissance pour acquérir les richesses et que tu entreprends quelque chose et que tu vois que tu as, je sais pas, qu'il y a une difficulté, tout de suite tu fermes, tu rends le bilan, tu déposes tout. Mais si les gens faisaient ça, Microsoft n'existerait pas. OK? Apple n'existerait pas. Vous savez que Apple, Steve Jobs, on l'a même chassé. Il est parti de l'entreprise pendant plusieurs années. Avant de revenir, quand il est revenu, l'entreprise était une entreprise banale. Mais il avait la foi en ce qu'il faisait. Il avait une vision et il croyait. Pourquoi les gens du monde nous apprennent ce que c'est que la foi? Pierre chapitre 1, verset 9. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est clair. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on obtient le salut de notre âme. On doit manifester la foi pour être sauvé, pour expérimenter le salut. Dans ce monde-là, le monde que nous connaissons et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui fait la guerre à notre foi. Qu'est-ce qui est le plus attaqué dans notre vie en tant que chrétien, dans ce monde, et surtout dans ce pays qui est la France? C'est notre foi. Notre foi est attaquée. Ça fait même partie des projets même du gouvernement. Comment? Ils ne le pensent pas comme ça. Ils ne disent pas comment est-ce qu'on va détourner les chrétiens de leur foi. Mais ils mettent en place des systèmes et des rouages qui de plus en plus vous éloignent de la foi pour vous amener tout simplement à une vie qui est purement matérielle et matérialiste. Et Jésus a dit quelque chose dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Dans ce monde-là, si vous voulez dominer, si vous voulez réussir, si vous voulez prospérer, vous devez vaincre le monde et le système du monde. Le mode de pensée du monde ne doit plus avoir d'effet sur vous. Quand la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas comme les gens du monde. Parce qu'il dit dans 1 Jean 5,4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dis, je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Triompher du monde, ce n'est pas vaincre le monde. Hein. Triompher du monde, triompher veut dire victoire éclatante. Amen. Triompher veut dire vraiment avoir le dessus sur les choses du monde. C'est le triomphe, tu dois triompher du monde. Le monde ne peut pas t'étouffer. Le monde est comme l'Égypte. Fais de toi un esclave. Le monde, c'est comme Laban pour Jacob. Qui fait Laban travailler pendant 14 ans. Laban, Jacob ne voit pas sa vie avancer. Plus il travaille, plus il doit travailler. Si en 2 mois, il n'a pas de revenus, il perd tout. Tout. Maison, voiture. Tout. Parce que le monde l'a lié. Avec quoi? Les crédits, les machines, les systèmes qu'ils ont mis en place et tout. Qui font que tu deviens esclave. Des fois, tu n'as pas envie même d'y aller, mais tu es obligé. Tu vas faire comment? Il ne faut pas aller. À l'église? Oh, je suis fatigué. Pasteur, on ne t'a pas vu. Oh, j'étais fatigué là. Je vais dormir un peu. Mais travaille. Même si tu es rentré à la maison à 5 heures du matin et que tu dois être au travail à 8 heures, la fatigue va sortir de ton corps. Parce que on te tient. Mais on te tient avec quoi? Avec l'argent. Mais cet argent-là, le monde ne va jamais te donner assez d'argent pour que tu puisses t'émanciper du monde. Si tu veux un jour devenir indépendant financièrement, tu dois avoir ta propre entreprise. Tu dois te réaliser, tu dois te faire. Or, comment monter, avoir ta propre entreprise si tu n'as pas la foi? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Le concept même de l'entrepreneuriat, c'est les chrétiens qui ont mené ça. C'est Christ qui a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tous ceux qui ont réalisé, qui ont bâti des entreprises, se sont inspirés des enseignements de Christ. Et ont marché par la foi. Les gens qui ont laissé leur travail pour pouvoir démarrer une entreprise, qui aujourd'hui sont vraiment au large financièrement. Les personnes qui ont commencé à eux-mêmes travailler, qui vendaient des chaussures dans le coffre de leur voiture, et qui aujourd'hui maintenant habitent tous les plus grands sportifs de la terre. Ce sont des personnes qui sont allées par la foi. Or Dieu a dit, mon juste vivra par sa foi. Mais les chrétiens, ils veulent être les derniers à vivre par la foi. Ce sont les derniers à vouloir vivre par la foi. Or c'est comme ça que Dieu veut te bénir. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Comment vous pensez qu'on va dominer dans cette nation? Qu'on va pouvoir avoir accès aux plus belles salles, aux plus grandes salles. Qu'on va pouvoir acheter des salles, qu'on va pouvoir acheter des véhicules, acheter du matériel, voyager, gagner le monde. Vous pensez que c'est avec le SMIC? Ça choque certaines personnes, ça blesse. Mais quand quelqu'un a le SMIC, il ne peut pas faire grand-chose pour son église. À part, il peut prier, oui, gloire à Dieu. Mais à des moments, on n'a pas besoin de prière. On a besoin d'argent pour pouvoir faire avancer les choses. Quand les gens finissent de crucifier Jésus, c'est à ce moment-là, les gens allaient prier, ils allaient prier quoi? Les pierres et tout, ça avait fui. Dieu avait besoin de quelqu'un. Joseph d'Arimathée qui avait des arguments solides. On parle de Joseph d'Arimathée, on dit un homme riche. Ce jour-là, là, c'est pas avec la prière en allant enterrer Jésus. Il fallait quelqu'un qui soit capable d'acheter un caveau rapidement. pour mettre Jésus dedans et de et avoir assez d'influence pour que les autorités lui fassent confiance et relâchent le corps pour qu'on puisse l'embaumer avant que, parce que s'il rentrait dans leur affaire de sabbat là, on allait jeter le corps de Jésus parmi les corps des vagabonds et des voyous. Mais Joseph d'Arimathée, c'était un disciple de Jésus. Mais vous savez, je ne dis pas ça pour voir vous. Mais si vous êtes mal à l'aise, même tant mieux. Parce que c'est quand on est mal à l'aise que les choses commencent à bouger. On commence à bouger. Mais là, je n'ai même pas besoin de parler même pour que vous-même vous soyez mal à l'aise. On est mal à l'aise. Quand on n'a pas assez. Quand on veut faire et on ne peut pas. Quand on a un budget. Une fois qu'on a, atteint ça là, c'est fini. On sait qu'on ne peut pas parce que sinon, on risque de me chasser de ma maison. Je risque de ne pas. Et puis, qui va venir à mon secours? C'est tu rentres dans un monde sans le savoir. Tu es comme dominé par le monde. Or, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que ce qui est né de Dieu s'affranchit du monde. Ce qui est né de Dieu domine sur le monde. Il commence maintenant à fonctionner dans une dimension où le monde ne peut pas le retenir. Le monde ne peut pas l'attraper. Le monde ne peut pas dominer sur lui. Ce que Dieu veut faire de nous est largement plus que ce qu'on le laisse, ce qu'on lui laisse faire. Pourquoi? Parce que on n'amène pas notre foi à atteindre le niveau de ce qu'il veut faire. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Lisez la suite. Et la victoire, dit la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est pour ça que le monde fait la guerre à notre foi. Le monde, c'est un esprit. Quel que soit l'endroit où vous trouvez, le monde a sa manière de penser. Le monde a sa manière de voir. Le monde a sa manière d'être. Et le monde est sous la domination du diable. La Bible l'appelle le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Donc vous avez des gens, vous parlez avec telle personne aujourd'hui, vous parlez avec un autre, vous avez l'impression que vous parliez avec un clown, avec son clown. Il vous dit exactement la même chose. Oh, moi, les affaires de Dieu, je ne suis plus trop dedans. Si Dieu existait vraiment, mais pourquoi ceci est arrivé? Moi, tant que je ne vois pas, je ne crois pas, je dois voir, je dois sentir, je dois toucher. Et c'est ça. Le monde fonctionne comme ça. Le monde, c'est un esprit. Ils sont tous contrôlés. C'est comme des marionnettes qui sont contrôlées par leur Dieu, qui s'appelle Satan, qui a aveuglé leur intelligence. Mais si toi, tu te retrouves à être une marionnette de leur Dieu, c'est grave. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par notre foi qu'on va couper ces fils-là et qu'on va être des éléments qui peuvent se déplacer et aller couper même les fils sur la vie d'autres personnes pour les libérer et pour les affranchir. Mais c'est par la foi. Touche ton voisin, dit c'est par la foi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'avant la venue de l'Antichrist, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire que plus nous avançons dans le temps, plus la foi diminue. L'Antichrist va arriver à un moment où il y aura une crise de foi dans le monde. C'est-à-dire que même les chrétiens, même beaucoup de chrétiens n'auront pas la foi. Aujourd'hui, on ne prêche plus la foi dans l'église. On ne prêche plus vraiment la foi, on n'apprend plus. Non. On est devenu maintenant, on a fondu dans le moule. Vous avez des églises qui sont très, entrer dans le moule, en fait. Faut plus parler de ci, faut plus parler de ça. Il faut tout simplement être ce qu'on appelle politiquement correct. Soigner la devanture, et puis tout le monde vient. L'église est bénie. On voit avec les yeux, l'église est bénie, mais est-ce qu'il y a le fond? Est-ce qu'il y a le fond? Les gens vont marcher de plus en plus dans la foi de Thomas. Ils veulent voir, ils veulent sentir, ils veulent toucher. Amen. C'est ce qu'on voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. Je n'avais pas prévu de lire ça, mais je vais le lire rapidement. Parce que je pense que tout chrétien a besoin de lire ce passage au moins une centaine de fois dans sa vie, quoi. Donc certains vont découvrir ce passage-là aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne, l'Antichrist va venir d'abord. Et avant que l'Antichrist ne vienne, l'apostasie va venir d'abord. Amen. On aura l'occasion de parler de ça une autre fois. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » C'est-à-dire que c'est par la foi qu'on est introduit dans les réalités du monde spirituel. Personne ne peut devenir un homme spirituel ou une femme spirituelle. Aucun chrétien ne peut devenir spirituel sans la foi. Parce que la foi va l'amener dans un autre règne. La foi va amener dans sa vie une sorte de révélation. Cette révélation est que tout ce qu'on voit en réalité vient de choses invisibles. Il va comprendre maintenant que le visible est soumis à l'invisible et que c'est en travaillant dans l'invisible qu'on va pouvoir affecter le monde visible. Oh. C'est un sens. Regardez. Si un enfant naît dans une maison, il naît dans une maison, et que dans cette maison-là, les gens ne parlent pas, les gens ne marchent pas, ok? Les gens ne marchent pas sur leurs jambes, tout le monde rampe dans la maison et les gens ne parlent pas. Cet enfant-là, il ne va pas parler et il ne va pas utiliser ses membres, il va ramper. Pourquoi? Parce que ses membres n'ont pas été exercés. Vous voyez? Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient chrétien, vous ne lui apprenez pas à exercer sa foi, à développer sa foi, il va grandir, il va aligner les années. Ok? Mais il ne va pas découvrir ce sens et ce membre-là qu'il y a dans sa vie qu'on appelle la foi. Or, sans la foi, tu ne peux rien avoir, rien faire. Tu es dans le moule. Oui, je travaille à tel endroit, je suis salarié là, mariage, enfant. Et quand le diable vient, et tu ne peux rien faire pour que tu es là, tu n'as jamais utilisé les membres. Avec la foi avec laquelle vous intégrez tous les traits enflammés du malin. Donc qu'est-ce que le diable ne veut pas? Il ne veut pas qu'on ait la foi. Amen. Mais c'est par la foi, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on sent que vraiment quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit et la chose arrive. C'est par la foi qu'on arrive à réaliser que nous aussi, puisqu'il nous a doté de la parole, on peut accomplir des choses. C'est quand quelqu'un devient spirituel qu'il comprend la force et la puissance de la parole. Est-ce que vous pouvez voir ma parole? Parce que ma parole est spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il n'y a rien de plus spirituel en toi que la parole qui sort de ta bouche. Donc quand quelqu'un a la foi, tu le sens dans son langage. Tu le sens dans la manière dont il parle. Mon frère, ça va? Oh, c'est trop compliqué ici, vraiment. Moi, je suis prêt à abandonner. Quoi? Tu viens de libérer toi-même les forces qui vont t'appauvrir et qui vont t'assécher. Ça va, mon frère? Tout va bien. Dieu pourvoit tous mes besoins selon ses richesses avec moi en Jésus-Christ. Tu libères des paroles créatrices. Tu libères des paroles de vie. Tu arrêtes de parler de limitation, pauvreté, blocage. Mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Mais si je fais comme ça? Mais si je fais comme si? Mais toi, tu crois que quoi? Mais comment c'est ça? C'est la vie réelle qui est là. Ici, c'est le monde réel. Toi, tu... Quoi? Toi, tu vas vivre dans le monde réel. Le monde où tu veux entrer, là, le royaume de Dieu, là, c'est le monde des les gens qui rentrent là-bas, c'est les gens qui ont la foi. C'est les gens qui manifestent leur foi. Regardez ce que la Bible dit. Verset 4. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que Abel a été déclaré juste. Pourquoi l'offrande d'Abel a été meilleure que celle de Caïn? Parce que c'était une offrande de foi. Amen. Donc même dans l'offrande là, celui qui fait l'offrande normale et puis celui qui fait l'offrande de foi, c'est l'offrande de foi qui est agréée par rapport à l'offrande normale. Dit l'offrande de foi. Dieu approuvant ses offrandes. Dieu approuvant ses offrandes. Donc il y a des offrandes qui sont approuvées, il y a des offrandes qui sont désapprouvées. À chaque fois que tu viens faire une offrande, tu dois challenger ta foi. Oh my God, alléluia. Tu dois faire des offrandes de foi, pas des offrandes basées sur la réalité du monde physique. Challenger, pousser. Et Dieu va agréer ton offrande. Amen. Et c'est par elle que Abel parle encore, quoique mort. Ça veut dire que quoi? Oh my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abel a manifesté la foi à un moment de sa vie. Et regardez, plusieurs milliers d'années plus tard, on continue de parler d'Abel. Il est mort. Son frère jaloux, sorcier, l'a tué. Caïn. Il l'a tué. Mais jusqu'à présent, Abel continue de témoigner. Vous pensez qu'Abel est où? Il en a fait ou bien il est dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui l'a emmené dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il continue de nous parler alors qu'il est mort depuis? Quelqu'un pourrait dire, oh pauvre Abel, il n'a même pas eu le temps de vivre. Il a fait une offrande, son frère l'a tué. Mais jusqu'à présent, il continue de parler. Il y a des gens, quand ils meurent, on le dit à la télévision, on dit telle personne est décédée. Ici en France, ils font ça. Il y a des gens, quand le jour où ils rendent l'âme, ça passe sur tous les portables et tout, à la télévision. Tout. Il y a des gens, ils meurent dans l'anonymat, il est mort, soulève le corps, on jette ça là-bas, après son propre papa, il part comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marqué le monde. Les gens que Dieu a utilisés, ils ont marqué le monde. Joseph a marqué le monde. David a marqué le monde. Jésus a marqué le monde. Pierre a marqué le monde. Paul a marqué le monde. Abel a marqué le monde. Tout ce que... Oh my God. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ne laissez pas le monde vous étouffer. Ne laissez pas le monde vous empêcher d'éclore. Sinon, vous allez rester des chenilles toute votre vie. Or Dieu, une chenille, elle a la capacité de voler. Tout ce qu'elle développe plus tard, personne ne vient prendre une aile pour venir mettre, visser ça sur le dos de la chenille. Tout ça, c'est déjà en elle. Sauf qu'elle prend le temps de développer ces choses, de développer ces choses. Et puis un matin, elle sort du cocon. Elle déploie sa trompe. Elle déploie ses ailes. Est-ce qu'on peut comparer une chenille avec un papillon? Pourtant, le papillon et la chenille, là, ils viennent tous de la même... Ils ont la même origine. Dieu veut qu'on soit des papillons et nous, on veut rester des chenilles. Tant que la chose est chenille, là, mais tous les animaux qui se promènent là peuvent la manger. Elle peut se faire manger même par des rats. C'est un rat qui t'a mangé. Donc toi, ta vie là, ça s'est arrêté par l'intervention. Non, non, non. Or, quand il devient papillon, est-ce que le rat peut rêver manger un papillon? Impossible. Au moins, ce qui va te overcome là, il faut que ce soit au moins quelque chose. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce que, je ne sais pas, on dirait que je suis en train de provoquer des gens. Mais oui, Vous avez besoin d'un électrochoc pour qu'on réveille votre foi. Dieu veut faire de vous des étoiles qui brillent dans le ciel et pas la poussière de la terre. Il veut faire de vous des étoiles qui brillent dans le ciel. Et la seule chose dont vous avez besoin pour passer de poussière à étoile, c'est la foi. Donc ça mérite qu'on la travaille. Ça mérite qu'on la travaille. Tu vois? Verset 5, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Nous on dit, on veut, il y aura l'enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement là, si tu n'as pas la foi, tu vas rester sur terre. Tu ne vas pas bouger. Tu vas aller où? L'enlèvement, ce n'est pas la foi. C'est pas, tu penses qu'il y a des gens qui vont courir. Seigneur, Seigneur, attends-moi. Et puis couille, puis saute. On dit, mon frère, laisse ça. Si tu n'as pas pu décoller, au moment où tout était ouvert, tout était favorable, où tu pouvais travailler ta foi, tu pouvais grandir. C'est pas maintenant là, tu crois que c'est en cours pour sauter? Et puis fais ça. Attendez-moi, attendez-moi. Plus tu fais ça, plus tu restes là sur la terre. Tu deviens encore plus lourd. Parce que toi, pour toi, tu penses qu'on on enlevait par les efforts physiques. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parût plus parce que Dieu l'avait enlevé. Un matin, Dieu lui a dit, bon, toi, viens ici. Alléluia. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu aimait la compagnie d'Enoch. Parmi tous les hommes de la terre, quand Dieu regardait la terre comme ça, il dit, oh, je vais aller voir Enoch. Et puis il est là, il est avec Enoch, il cause avec Enoch. Vous savez, quand vous avez quelqu'un dont vous aimez la compagnie, bon, je t'accompagne. Et puis vous l'accompagnez chez lui à la maison. Après, il dit, bon, moi, je t'accompagne. Et puis, il te raccompagne encore à la maison. Bon, je te raccompagne. Et puis, tu le raccompagnes à la maison. Enoch et Dieu, c'était chaque soir. Dieu met la compagnie d'Enoch. Un soir, Enoch accompagnait Dieu au ciel. Dieu dit, c'est même pas la peine de retourner là-bas. Reste ici en même temps avec moi. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est après ça qu'il dit au verset 6, or sans la foi, il était possible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Dieu n'a même pas envie même d'aller là-bas. Il veut pas. Jésus a dit à ses disciples, mais incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi? Parce qu'ils sont allés prier pour un possédé et ils n'ont pas pu chasser le démon. Jésus, mais après, il lui demande, mais pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi. Si vous aviez la foi aussi grosse qu'un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et la montagne le ferait. Il dit, rien ne vous serait impossible. Agréable à Dieu. Un homme qui était agréable à Dieu. Parce que c'est un homme de foi. Quand Dieu lui disait quelque chose, il croyait. Quand Dieu lui disait, c'est possible, il le croyait. Il avait plus, il avait foi. Quand tu as foi en Dieu, tu lui es agréable. Il ne discute pas trop avec toi. Tu es béni. Oh, je suis béni. Quelqu'un te rencontre, je suis béni. Oh non, je suis béni. On dit, non, mais toi, les choses que tu vois dans ta vie, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui est béni? Je te dis que je suis béni. Ah, je suis béni. Ça se magnifie, tu vas voir. Tu as la conviction. Moi, il y a des convictions que j'ai. Je sais que je ne peux pas échouer. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si je dois être le dernier à croire en moi, je vais croire en moi. C'est pas grave. Mais je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai une mission et j'ai un Dieu qui m'a appelé pour accomplir cette mission. Cette mission va s'accomplir. Elle va se faire. Tous les dons que j'ai reçus, je sais que je les ai. Et ils vont se manifester. Et ils vont aller grandissant. Et une chose que je sais, c'est que Dieu appelle un homme pour un moment et pour une époque et pour des circonstances. Et des fois, ta saison n'est pas encore arrivée. Mais, my God, je sais que ma saison, elle arrive. Il y a un jour où il y a des messages qui vont commencer à énerver les gens. Ils vont dire, non, nous, c'est, on veut ça parce que depuis là, notre vie ne change pas. Amen. Et à ce moment-là, toi-même, tu sais même pas, mais Dieu maintenant commence à emmener. Et puis ton ministère, il explose à la face du monde. T.D. Jakes, qu'est-ce qu'il dit dans son témoignage? Pendant des années, ils étaient 8, 7, 10, 15. Jusqu'à ce qu'un jour, il a donné son témoignage, les 8 minutes qui ont changé ma vie. Il allait participer à un programme. Et ce jour-là, les gens de TBN, de la télévision, étaient là, télévision chrétienne. Et ils ont filmé. Et au moment où ils filmaient, c'est à ce moment-là qu'ils prêchaient. Or, le pasteur qui organisait sa conférence lui a dit, tu as 8 minutes. C'est-à-dire, c'est comme si nous, on fait notre convention et puis on a un jeune homme là. Et puis on lui dit, tu as 8 minutes. Et au moment où il vient pour prêcher ses 8 minutes, TF1 est là. Parce qu'ils ont appris qu'il y a un événement chrétien, donc ils viennent filmer. Et ce jour-là, on le filme en train de prêcher. Ce jour-là, sa vie a changé. Aujourd'hui, 45 000 membres. Qui dit mieux? Dieu, my God. Dieu, my God. Faut croire. Il faut croire. Il aurait pu dire, mais ça fait 10 ans maintenant, on a 7 membres, c'est bon, on sait que Dieu ne m'a pas appelé, je laisse le ministère. Quand Dieu t'appelle, pour que ce qu'il a dit qu'il va faire s'accomplisse, tu dois avoir la foi. Le chemin de la foi, c'est le chemin du succès, c'est le chemin de la réussite. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Qui veut que sa foi grandisse? Amen. Qui veut que sa foi grandisse? Gloire à Dieu. Amen. Même moi-même, je veux que vraiment, notre foi, vous savez, notre foi, elle n'a pas de limite. La foi, c'est quelque chose qui peut grandir de manière extraordinaire, sans avoir de limite. Amen. Mais Dieu nous a donné un moyen de commencer à faire sa foi se développer. Et j'en ai parlé dimanche passé. Et j'en ai parlé, et je vais vous en parler encore. Tu veux que ta foi grandisse? Parle en langue. Prie par l'esprit. Fais-le de manière diligente et régulière. Parle en langue. Une heure au moins le matin, une heure le soir. Commence à faire ça. Commence à t'exercer et à réveiller ton esprit. Parce que la foi vient du cœur. La foi vient du cœur. Si quelqu'un croit dans son cœur. Amen. Si quelqu'un croit dans son cœur. Donc la foi vient du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est toi. C'est ton esprit. C'est cette partie de toi qui est en contact avec Dieu, qui a été créée à l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais la Bible nous dit que Dieu est esprit. Donc Dieu nous a créés esprit. Quand il a formé le corps de l'homme, la Bible dit qu'il allait vers la terre, il a formé le corps de l'homme. Et il a fait à l'homme des narines. Et la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a soufflé dans ses narines. Il a fait... Et la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Au moment où il a soufflé dans ses narines, là, c'est là qu'il a introduit l'homme dans le corps. L'homme est sorti de Dieu. C'est notre corps qui vient de la terre. Mais nous-mêmes, là, on est venu de Dieu. On n'est pas. Quand quelqu'un te dit tu es poussière, tu redeviens poussière. Moi, je ne suis pas poussière. Mon corps est poussière. Mais moi, je ne suis pas poussière. Moi, je suis esprit. C'est pour ça que les scientifiques disent qu'ils ne comprennent pas à quel moment l'homme meurt. Ils ont l'impression qu'ils disent qu'il y a 21 grammes. Quand on pèse un homme avant sa mort et après sa mort, il y a comme un écart de 21 grammes. Ils ont l'impression que les 21 grammes là, c'est l'esprit de l'homme qui est parti. Mais même les scientifiques disent, mais qu'est-ce qui fait que l'homme, il marche, il parle, il se déplace et ce genre de choses. Et à un moment quand il meurt, il fait ça. Pourquoi tout homme quand il meurt, il expire? Pourquoi il expire? Parce qu'il a un souffle qui vient de Dieu. Il ne fait que rendre à Dieu le souffle que Dieu a mis dans ses narines. Moi, je ne suis pas poussière, je suis esprit. Et si je développe cet esprit-là, alors je développe Dieu en moi et ça me rend capable de faire des choses qu'un homme normal et naturel ne peut pas faire. C'est pour ça que la Bible dit dans Jude chapitre 20, Jude 20, Jude 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Comme on édifie sa très sainte foi? En priant par le Saint-Esprit. Si tu vas chercher dans tes membres, dans ton corps, la foi, tu ne vas rien trouver. Il y a des gens qui sont là, je crois. Ça là, c'est instable. Quand tu crois avec ça, dès que tu vois quelque chose qui est contraire, ça change en même temps. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça vient d'ici. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On est convaincu, on est sûr. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On dit, mais toi, pourquoi tu as tant d'assurance? Parce que je sais. J'ai vu, je l'ai vu. Mais tu as vu comment tu as la photo? Non. Mais je vois, oh my God, je le vois aussi mieux que toi-même que je te vois là. Je crois plus en la vision que j'ai reçue, en l'appel que j'ai, aux choses qui vont s'accomplir, que à la personne qui se trouve devant moi. Tu me dis, je ne peux pas. Mais toi, tu es qui? Who are you? Tu es qui? Tu es plus grand que Dieu? Tu es plus fort que Dieu? Dieu a dit, ça va se faire. Sans la foi, je ne peux pas être un winner. Amen. C'est pour ça qu'on va parler de la foi. Il faut que ta foi commence à être agissante. Dis à ton voisin, la foi agissante. Par l'amour. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Oh, alléluia. Et la foi. Crois en Dieu. Et crois à Dieu. Amen. Ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi, il le fera certainement. Dieu veut nous amener loin. Il veut nous amener très haut. Très haut. Beaucoup de personnes parmi nous ici ce soir, Dieu va faire de vous des leaders dans cette nation-là. Vous allez paître des centaines de brebis, des centaines de personnes. Il y a des personnes ici, Dieu va vous utiliser pour guérir des malades. Pour lever même des paralytiques. Vous allez rentrer dans les hôpitaux comme ça là. Et puis en sortant, des gens vont vous suivre avec. Ils vont jeter leur béquille, leur canne. Alléluia. Et ils vont vous suivre. Il y a des personnes qui vont entrer dans des endroits. Le diable va sortir par la fenêtre. Il va sortir par le toit. Tous les trous qu'il va trouver, il va sortir par là. Parce qu'il va voir des géants qui entrent, qui arrivent. Mais nous devons embrasser la carrière que Dieu nous propose. On ne doit pas être paresseux. On doit pas être faible. On ne doit pas s'appuyer sur la chair. On doit s'appuyer sur l'esprit. Or, pour s'appuyer sur l'esprit, on doit avoir la foi. Ton miracle de guérison, tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. Commence à croire. Tu pries pour ça. Le matin, tu te lèves, tu parles en langue. Tu dis, je suis rempli de l'esprit. Même si tu as du mal à marcher, je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Mais développe cette foi-là. Parle aux situations. Parle aux problèmes. Ne laisse pas le monde t'étouffer. Mais affranchis-toi du monde et de l'esprit du monde. Alléluia. Élève la voix, prie ton Dieu ce soir. Élève la voix, prie ton Dieu ce soir. Élève la voix, prie ton Dieu ce soir. Ce que tu vois, ce n'est qu'une illusion. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que tu crois. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ça la réalité. Tu es un vainqueur. Tu es là pour triompher. Et tu vas triompher du monde. Et ce qui va triompher du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Makakandaria seke mosori baba sheke sederia. Rikete kemprosoria makandari masé. Et kinderia sokohondoria boko toso. Ika baba henderia sokoshonda yasa. Oui, tu marcheras certainement sur un chemin où il y a des oppositions, mais tu triompheras de chaque opposition et chaque situation sur laquelle tu triompheras te rendra encore plus grand. Prépare-toi à voir la gloire de ton Dieu. C'est lui qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons que tout ce que tu as dit que tu allais faire dans notre vie, tu l'as déjà fait. Nous croyons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as mis au large, que tu nous as mis à part, que tu as pourvu à tous nos besoins, que tous nos besoins sont pourvus déjà. Tous les besoins de la convention sont pourvus. Tous les besoins de l'Église pour avancer, pour prospérer, pour se développer sont pourvus au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu viens au secours de la foi de tes enfants. Donne-leur, fais-leur cette grâce-là de relancer leur foi et de leur permettre de grandir encore dans la foi, Seigneur. Tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui nous voient, que leur foi grandisse et que se développe, qu'ils aient la foi de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Et merci Seigneur parce que tu nous permets aujourd'hui de nous approcher de toi et de participer à la Sainte Cène. Tu as dit, faites cela chaque fois que vous vous réunirez. Faites cela en mémoire de moi. Vous vous rappelez qu'un prix a été payé pour vous et que vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous allez vaincre parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu a la victoire. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin qui sont bénis, qui sont sanctifiés, afin que le peuple de Dieu puisse recevoir en lui la force pour surmonter les épreuves, pour dominer les oppositions, pour se tenir dans la victoire, car la victoire est à nous, elle est pour nous, et nous la verrons se manifester, nous la voyons se manifester, nous sommes victorieux, nous sommes dans la bénédiction, nous nageons dans la bénédiction, nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Les enfants de cette assemblée sont visités par ta grâce et ta gloire. Des opportunités nous sont offertes. Nous nous affranchissons du monde, de la loi du monde, de l'esprit du monde. Et nous sommes libres, libres d'avancer, libres de prospérer au nom de Jésus.